Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À tous, bonjour. En ce dimanche 20 juin 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Raïssi, président, trois des quatre candidats pro-résistance totalisent près de 90% des votes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, Ibrahim Raïssi, nouveau président élu iranien, des quatre coins du monde, les félicitations affluent. PGAC, nouvelle réunion à Vienne, à l'accord et à portée de main. Et puis l'armée yéménite affirme avoir abattu un drone espion américain au-dessus de la province de Ma'arib. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Des feux d'artifice ont illuminé samedi soir le ciel de plusieurs villes iraniennes. Les partisans du président élu, Ibrahim Raïssi, sont descendus dans les rues pour célébrer sa victoire aux élections de vendredi. Les gens se sont pressés dans les rues, les mosquées et autres lieux publics pour exprimer leur joie face à la victoire écrasante de Raïssi. Il a recueilli près de 18 millions de voix sur un total de 29 millions de voix exprimées le jour du scrutin, devenant ainsi le 8e président de la République islamique d'Iran. Le rival de Raïssi, Mohsen Rezaei, est arrivé loin derrière avec plus de 3,4 millions de voix, suivi de deux autres candidats. Désormais, le président élu dispose de 4 ans pour honorer ses promesses électorales, dont notamment la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la situation économique. Des messages de félicitations affluent pour le nouveau président élu iranien Ibrahim Raïssi. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a exprimé l'espoir de renforcer davantage les liens et la coopération entre Caracas et Téhéran pendant la présidence d'Ibrahim Raïssi. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a souhaité plein succès à Raïssi dans l'exercice de ses fonctions. Le président nicaraguyen, Daniel Ortega, a également exprimé ses plus sincères félicitations au nom de sa nation au nouveau président élu iranien. Les dirigeants d'autres pays, dont la Russie, la Turquie, l'Irak, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont déjà adressé des messages de félicitations au président fraîchement élu, iranien. Les signataires restants de l'accord nucléaire iranien de 2015 ont tenu une réunion formelle à Vienne dimanche. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les parties étaient sur le point de conclure un accord, mais qu'un certain nombre de questions litigieuses restaient en suspense. Araghchi, qui est à Vienne pour le 6e cycle des pourparlers, affirme que les parties aux négociations sont très proches d'un accord. Mais il a dit qu'il devrait se prononcer sur les questions en suspense. La conclusion d'un accord dépend de la satisfaction des exigences clés et de la dissipation des préoccupations fondamentales de la République islamique. Et une fois atteint un tel point, un accord sera conclu, que ce soit avec ce gouvernement Rouhani ou avec le futur gouvernement, ajoutait Seyed Abbas Arorchi, concernant les pourparlers sur le pacte multilatéral de 2015. La réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, de la Turquie et de l'Afghanistan a eu lieu ce dimanche en Turquie. L'un des principaux sujets de cette réunion est les derniers développements en Afghanistan et le dernier processus de paix dans ce pays. Zarif s'est rendu en Turquie jeudi pour assister au forum diplomatique d'Antalya. L'armée yéménite affirme avoir abattu un drone espion américain au-dessus de la province de Ma'arib. Le porte-parole de l'armée yéménite, Yahya Sari, a déclaré que le drone, connu sous le nom de Scan Eagle, avait été intercepté et touché alors qu'il survolait la région de Mashja dans la province de Ma'arib. Il a ajouté que le drone avait été abattu à l'aide d'un missile solaire. Le porte-parole a également souligné que les forces armées yéménites ne lésineraient sur rien pour défendre le ciel du pays contre toute agression. Les talibans se sont dit déterminés à poursuivre les pourparlers de paix au Qatar en réaction aux inquiétudes suscitées par la lenteur des négociations. Dans un communiqué, le bureau politique des talibans a déclaré que le groupe croyait à la résolution des problèmes par une compréhension mutuelle. Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans ont repris au Qatar mardi dernier après une impasse en avril. Mais les parties engagées, dont Kaboul, craignent que les discussions ne mènent à une nouvelle impasse. Selon les autorités, les talibans doivent soumettre une proposition de paix écrite qui servira de base à des pourparlers officiels. Enfin, des centaines de pêcheurs français ont manifesté contre le projet de parc éolien offshore en Normandie et en Bretagne. Les manifestants ont dénoncé la dérive de l'industrie éolienne offshore. Les pêcheurs ont exigé l'arrêt immédiat des travaux de construction actuellement en cours. Ils craignent que l'implantation de parcs éoliens en mer, dans les zones de pêche ou à proximité, ne soit préjudiciable pour les ressources et l'économie de leur profession. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Raisi, président. Trois des quatre candidats pro-résistance totalisent près de 90% des votes. Avec ses meilleures armes médiatiques, ses réseaux sociaux tentaculaires liés à services secrets et ses milliers d'agents reconvertis en journalistes, dont quelques 500 se trouvent toujours en Iran, l'Empire US ne saura renier ce qui s'est passé le vendredi 18 juin en Iran. Le peuple iranien s'est affirmé comme partie prenante de la résistance. Trois des quatre candidats au 13e scrutin présidentiel, qui, de prolongation en prolongation, a duré 18 heures d'affilée, tant a été grande la foule de quelques 59 millions d'électeurs appelés aux urnes, appartiennent à la ligne dure. Dans le jargon médiatique de l'Empire, la ligne dure veut dire diamétralement opposée au maximalisme, à l'expansionnisme, d'un axe US-sionisme, qui a fait par exemple que la France devienne sans réellement comprendre pourquoi la tête de pont de la guerre américaine contre la Russie, alors même que Biden vient de s'entendre royalement avec Poutine à Genève. Le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, trouve soudainement opportun de juger possible une frappe nucléaire russe en Europe. Évidemment, ce jugement n'est pas celui d'une majeure partie des Français qui, tiraillés entre diverses crises socio-économiques, n'a rien à faire de la dissuasion nucléaire, épouvantail destiné à placer davantage leur continent sous la férule US Israël, mais celui de l'axe US Israël qui cherche à viciller les réels besoins des sociétés entières, quitte à leur imposer son propre calendrier pour mieux les dépouiller, les manipuler, les exploiter. Le vendredi 18 juin, une majorité d'Iraniens a dit un grand non à ce modus operandi colonialiste qui, à travers un système néolibéral en banqueroute, continue à ronger une bonne partie de la planète. Ce non, les Iraniens l'affirment pour la 42e année consécutive, alors même qu'Israël vient de sortir agonissant de 11 jours de bataille balistique folle et que l'Amérique, au but de 4 ans de Trump et 6 mois de Biden, voit tour à tour son armée de terre au Moyen-Orient, repartie qu'elle est à travers 150 bases terrestres, devenir l'otage de l'axe de la résistance. Sa puissante US Air Force, si superbement grossie à coups de milliards de dollars, a l'effet de détruire les pays entiers du Moyen-Orient élargi et se dégonfler face aux petits drones iraniens. Les trois candidats ultra-conservateurs totalisent à eux seuls plus de 90% des voix pour un taux de participation frôlant les 54%, et c'est Ebrahim Raïssi, le plus ultra-conservateur de tous, qui a gagné et a en jugé les résultats des premiers dépouillements qui le donnent accrédité de plus de 17,8 millions de voix sur un total de 28 millions. Eh bien, ceci renverse tous les calculs d'un empire qui a usé et abusé des plus dures sanctions de l'histoire contre les Iraniens, de menaces, clashs militaires, d'assassinats de hauts commandants militaires, de savants nucléaires, d'attaques contre pétroliers, cyberattaques, etc. Et tout ceci sur fond d'une campagne médiatique hystérique, criant à tue-tête « L'Iran est sur le point de capituler ». Eh bien non, l'Iran n'a pas capitulé et ne capitulera pas aux négociations nucléaires, puisque c'est là le point de focalisation du camp d'en face, c'est cette voix dure qui parlera désormais, non pas tant pour couper le dialogue avec le reste du monde, mais pour ne plus permettre qu'une puissance en déclin comme l'Amérique ose signer un document international reconnu, à savoir PGAC, puis le déchirer, et sont au mépris de ses propres alliés, et surtout à leurs dépens. Cette ligne dure, les Iraniens l'ont adoptée pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour les peuples de la résistance qui, en Palestine, en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban, ont prouvé au reste de la planète que l'Empire n'est plus et que chaque État-nation peut devenir le maître de son destin, et qu'il n'existe aucune fatalité. Vendredi, un dernier reportage de France 24 sur l'Iran débutait en ces termes. En Iran, les bureaux de vote accueillent depuis vendredi matin les Iraniens appelés à élire le successeur de Hassan Rouhani à la présidence. Les premières tendances données par les médias iraniens conservateurs laissent présager un taux d'abstention inédit. L'ouverture des bureaux de vote a même été prolongée jusqu'à 2 h du matin. C'est dire à quel point les Iraniens ont faussé le jeu et ont pris de court le camp d'en face qui, alors qu'il est, devrait se demander s'il est opportun ou pas de s'obstiner à inclure les missiles iraniens au dialogue ou parler encore du rôle déstabilisateur d'une nation, pour citer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, discours prononcé hier. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a souligné ce qui se passe en Palestine occupée, à Quds et à Al-Aqsa prouve que nous nous sommes confrontés à un ennemi d'idiot et de rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah a également souligné que l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, que sa demeure soit au paradis, avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Et Seyyed Hassan Nasrallah de préciser encore, les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacrées. Il faut que l'Oumma les soutienne. Nous devrions faire remarquer de Seyyed Hassan Nasrallah de faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develay, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci.
Madame Midani, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle est, d'après vous, l'importance de ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, qui a évoqué également la crise du Yémen, qui a évoqué également la crise que traverse actuellement le Liban, et tout en soulignant que le Liban peut solliciter l'aide de l'Iran pour, en fait, de sortir de cette crise. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
De grandes victoires qui ont été réalisées en Palestine, au Yémen et en Syrie. Et puis en même temps, il y a une grande crise au Liban. Il a retracé, en fait, Mahmoud Hassan a retracé l'historique des victoires de la résistance, en fait, et puis l'historique aussi de sa création, je dirais. Donc, c'est très important, en fait, de souligner effectivement toutes les victoires, surtout pour ceux qui sont en train de dénigrer et de renier ces victoires et de dire que c'est...
Madame Midanit, nous avons fait une mauvaise liaison avec Paris. Nous allons partir tout de suite, le monde de la technologie nous le permet, nous allons partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnaud Develay. Mes amis à la régie vont revenir vers Aïssar Midani pour établir ce contact et cette liaison. Maître Develay, je vous pose en fait la même question. Quelle analyse portez-vous sur ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît?
Comme première impression, déjà, d'un discours qui portait à rassurer les habitants, rassurer les gens, non seulement quand on a les cas de santé, vous savez, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines. Certainement, tout ce qui est porté par certaines parties qui avaient intérêt justement à laisser un peu les doutes, et qui l'a appelé à rassurer en primaire que sa santé était fixe. Et que toutes les formes analyse d'experts qui porterait à essayer de deviner ce quoi le salut de structurer sont des préventifs. Rassurant aussi eu égard à Othon, qui, dans sa maestria habituelle, a appelé la télévision régionale, en soulignant bien sûr la situation donc, dans la péninsule arabique au sens large et la victoire autonomique contre l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, en mettant le poids aussi en insistant sur le fait que lorsque les opérations militaires ne vont pas dans le sens des investisseurs, malheureusement, c'est la population qui est guidée et que dans ce contexte particulier, les offres de paix ou les approches sont en fait empreintes de critiques puisqu'elles ne guidaient pas justement à alléger les bus qui empêchent les peuples économiques de manger à sa faim. Il a aussi évoqué la situation en Syrie en parlant bien, en suivant bien justement cette opération dite de FITMA, parce que c'est ce qui caractérise la situation syrienne dans sa genèse, hein, et jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, en soulignant que les forces légitimes avaient repris la main sur la situation. Et il a bien sûr évoqué la situation au Liban en mettant, j'allais dire, sous notice ses alliés de la coalition, que s'il ne prenait pas la responsabilité en formant un gouvernement, il prendrait acte de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour éviter justement que le peuple libanais soit lui-même l'objet d'un siège alimentaire et économique tel que le pays ne s'en remettrait pas. Il a mis en garde, il a été très clair sur ça. Et point très important, il a dit essentiellement, mais il n'a pas peur de terminer. On dirait que vous êtes probablement en parlant de ces années, vous semblez avoir une peur non fondée des États-Unis, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous mettons sous la partie, si vous ne prenez pas les décisions législatives qui permettent d'entériner les mesures que nous avons commencé à prendre, nous prendrons les mesures qui sont imposées parce que bah, nous sommes un parti qui est responsable, un parti qui est de responsabilité, et ce que nous ne pouvons pas, que la situation se détériorer sans rien faire. Donc, c'est une façon un peu de craindre l'horizon, de rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations quant à l'avenir en ce moment, et la voix de Khaled Nasrallah dans ce contexte est toujours des plus rassurantes.
Notre liaison, merci beaucoup, notre liaison, fort heureusement, avec Paris, et plus précisément avec Madame Aïssa Midani, a été rétablie. Madame Midani, rebonjour.
Rebonjour, rebonsoir à vous.
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, oui. Et vous m'entendez bien?
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, notre liaison a été mauvaise. Là, notre liaison est très bonne. Madame Midani, vous étiez en train de faire votre analyse de ce discours de Saïd Hassan Nasrallah. Je vous en prie, la parole est à vous.
Ok, alors effectivement, je disais que c'était important de rappeler l'ensemble des victoires depuis la création de la résistance qui a été, donc dans les années 80-82, qui a été créée. Et l'ensemble des victoires qui se sont soldées par la libération du Liban en 2000, du Sud-Liban en 2000, puis de la victoire en 2006, et puis l'ensemble des victoires aussi bien de la résistance libanaise, mais aussi de la résistance palestinienne, de la construction de ponts entre la résistance libanaise et la résistance syrienne avec le peuple syrien, le peuple palestinien et le peuple yéménite. En fait, toutes ces victoires et toutes ces synergies au niveau de la résistance étaient aussi animées et construites par la radio-télévision Al-Mana, qui est une qui est une télévision et radio engagée pour la résistance et qui ne cherche pas du tout le profit, mais qui cherche plutôt à construire effectivement cet esprit de résistance et d'offensive et en fait et de vérité. Donc il était important aussi, ce qu'il a souligné, et c'était très très important, c'est que de toute façon, il y avait aussi, on a affaire à des ennemis qui sèment toujours qui sèment le doute et qui sèment la discorde, qui cherchent toujours à créer diversion, et nous sommes, en fait, à surmonter la diversion, et on arrive par la prise de conscience de nos intérêts communs face à cet ennemi sioniste qui est là et qui est idiot et qui est aussi peut aller très loin en période d'aventure. Donc c'était important de mettre les holà et les lignes rouges à cet ennemi. Et puis aujourd'hui, il est important aussi d'être prêt toujours pour les batailles à venir. Mais aussi, donc, il a souligné les dernières victoires de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, mais aussi de la Syrie, du peuple syrien et de sa résistance aussi. Donc, cette coopération au niveau des résistances qui a changé la donne, je dirais, au niveau de la région. Mais aussi, il est important, donc il est revenu à la fin sur la crise libanaise, où il affirme qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute façon, les solutions sont là. On peut toujours avoir des solutions. Nos ennemis cherchent à nous faire mourir de faim et à nous mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça, nous ne le ferons pas. Nous avons des solutions, nous avons des amis très proches, stratégiques comme l'Iran, qui pourraient, à la suite d'une décision importante, courageuse, une décision politique libanaise qui pourrait être prise par des responsables politiques libanais. Elle pourrait nous fournir l'essence, le fuel, etc., qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne faut pas accepter cet état, il ne faut pas accepter ces solutions que l'Occident peut nous imposer, qui sont des solutions qui nous mettent à genoux et qui nous mettent à leur merci, parce qu'il y a d'autres solutions où nous pouvons être toujours souverains et respectés. Donc ça, c'est un point, je pense que ce sont des différents points très importants. Il a souligné l'importance aussi de l'alliance stratégique entre toutes les... Mais pas seulement dans l'axe de la résistance, mais aussi que de toute façon, la Jérusalem est... Jérusalem, c'est quand même le centre de la religion musulmane et de la religion chrétienne, et il est important de défendre Jérusalem, que la défense soit prise en compte par l'ensemble des peuples musulmans et des peuples chrétiens face à cette offensive, et qu'aujourd'hui il faudra qu'on mette il faut quand même que l'ennemi comprenne que l'agression contre Jérusalem, ça veut dire aussi une guerre très importante régionale et qui le mettra en danger. Ça, ce sont les points clés, je dirais. Et il est important aussi de reconnaître que ce sont les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens de Palestine occupée en 1948, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ils ont défendu, et de Jérusalem, ont jusqu'à présent défendu et défendent toujours Jérusalem, mais il faudra aussi les soutenir et les... s'engager dans ce combat de défense de Jérusalem qui est le nôtre.
Merci beaucoup. Maître Develet, Madame Idani vient de faire allusion en fait à ce point qui a été évoqué par le secrétaire général du Hezbollah libanais qui a en fait souligné que la défense d'Al-Quds, si vous voulez, la première des priorités. Et il a, Madame Midani également vient de l'évoquer tout à l'heure, a dit que voilà, nous devons agir de sorte que toute agression contre Al-Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Maître Develet, là, cet Hassan Nasrallah semble avoir lancé une sévère mise en garde au régime israélien, comme quoi s'il y a une agression contre Al-Quds, ça entraînera une guerre régionale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments et des composantes de l'axe de la résistance réagira.
Oui, tout à fait. De toute façon, Saïd Nasrallah a toujours été cohérent dans ses positionnements stratégiques et il tient le discours de quelqu'un. Il a confiance en ses forces, en sa capacité à infliger des coups de terrible à l'ennemi. Et ce faisant, il tient à lancer un message plus ou moins voilé aux autorités sionistes, que ceci soit à l'avenir représenté par la coalition avec un facette d'Arsabitanas, ou bien en faveur de. Une cuisine interne israélienne, un retour aux affaires de Netanyahou, ça n'a aucune importance de toute façon. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'on a en Netanyahou quelqu'un d'extrêmement impulsif, revanchard, on va dire amer et jusqu'au bout, et un cynisme à toutes épreuves. Donc, comme il a compris à qui il avait affaire, il met en garde quelque part le Netanyahou ou les autorités sionistes de manière générale en toute tentation de créer une situation en cas de pays qui, comme il l'a souligné, effectivement, entraînera une réponse à l'échelle régionale. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message que malgré les difficultés que traverse le Liban actuellement, malgré tout, imaginer que les capacités et la vigilance de l'Ebola s'en trouvent inversement affectées. Donc, que les choses soient bien claires. Donc, c'était important de le souligner. Il l'a souligné dans son discours. Et à partir de là, que les choses soient claires. Non seulement nous sommes prêts à toute éventualité, et d'ailleurs, les provocations, ces derniers jours, on les souligne. Hein, on a eu. Ce n'était pas quelque chose d'assez grotesque, d'assez pittoresque, avec l'armée sioniste qui a déployé des blindés pour l'histoire de familles à la frontière, sans succès d'ailleurs. Et puis ce matin encore, des fusées imminentes en plein jour. Donc c'est un petit peu le genre de comportement irrationnel auquel nous sommes confrontés, enfin, auquel nous sommes témoins. Il faut raison de garder. De toute façon, les sionistes ont été rappelés à l'ordre, si je puis dire, au travers des 11 jours d'opération de la route. Le paradigme a changé. Les forces en présence ont complètement mis en jour leur synergie et leur capacité politique à constater toute agression sioniste. Et à partir de là, le discours est cohérent, il est limpide, il est clair et il est plus consistant.
Madame Midani, s'agissant en fait du Yémen, c'est Hassan Nasrallah a qualifié en fait de trompeur le geste de médiateur que s'offrent les États-Unis envers la crise du Yémen. En fait, s'agissant de ce point, il a préciser. Tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Exactement, c'est tout à fait, parce que les États-Unis, comme l'Arabie saoudite, n'arrêtent pas de proposer soi-disant des cessez-le-feu, mais en fait, les Saoudiens ne cessent pas du tout, ils continuent à bombarder, et à bombarder les civils, et à bombarder l'ensemble des installations au niveau du Yémen. D'un autre côté, on voit que l'embargo continue, il y a même des navires avec des produits pétroliers qui sont dans le port pas loin du port de Hodeïda, que nous interdisent aussi de les décharger au Yémen. C'est effectivement, donc ils veulent continuer, ils veulent que les Yéménites arrêtent les combats, alors que les Saoudiens continuent à bombarder, et ils veulent aussi, il n'est pas question de lever l'embargo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer des conditions à un peuple qu'on affame, qu'on affaiblit, qu'on essaye d'affaiblir aussi au niveau de la santé en temps d'épidémie, et qu'on veut faire effectivement négocier, voire en fait faire du chantage à ce peuple et aux révolutionnaires yéménites, leur faire du chantage avec une sorte de goutte à goutte alimentaire, hein, et chaque goutte serait l'objet d'un chantage, et puis les faire céder. Donc Samaha de Cheikh Nasrallah a dit que c'est un véritable mensonge, que les États-Unis mentent et ils font miroiter des choses alors qu'ils ne les appliquent pas. Et il faut prendre conscience que ce sont des vrais menteurs qui veulent avoir le tout pour rien, et qui font justement qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la paix, alors que c'est un discours trompeur, je dirais.
Merci.
Comme la majorité des discours, en fait, des États-Unis et puis de leurs alliés dans les guerres, pas seulement dans cette guerre, à vrai dire, parce que nous, en Syrie, on en a aussi une véritable expérience de ce qu'il raconte, des mensonges.
Merci beaucoup.
Qu'il publie aussi, et la réalité de leurs actions.
Merci infiniment, Madame Aïssar Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volet, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Zandalan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Après le retrait des États-Unis d'Afghanistan, la France a décidé de venir à bout de la mission de Barkhane au Mali. L'Algérie semble en revanche se préparer pour prendre le contrôle de la situation dans la région du Sahel, en particulier au Mali, où sont encore actifs des éléments d'Al-Qaïda. L'initiative d'Alger vise à protéger sa sécurité nationale face aux agissements des groupes terroristes dans la région. Selon des experts, elle dispose déjà de patrouilles aériennes dans le nord du Mali. En tout cas, la proximité géographique et sa grande puissance militaire justifient la prise d'une telle décision. Le chef d'état-major algérien serait-il rendu en catimini à Paris pour négocier un shift par vers militaire algérien au Sahel, au motif que la France s'en retire comme de l'Amérique retire d'Afghanistan. L'Algérie rejette catégoriquement cette allégation. L'Algérie est le pays candidat pour combler le vide laissé par le retrait français. D'une part, la proximité des géographiques l'oblige à protéger sa sécurité nationale face aux agissements des groupes terroristes armée active dans la région, et d'autre part, elle dispose d'une puissance militaire, souligne le quotidien français Le Monde. Le week-end dernier, le quotidien français Le Monde est traité de la détermination de l'Algérie à devenir une puissance régionale en sécurisant le sud et la côte contre les groupes terroristes armés. Pour ce faire, l'Algérie a inclus une modification dans le texte de la Constitution, toujours près de selon le quotidien français Le Monde, préparant le terrain à une transformation en ratifiant en novembre dernier un amendement à la Constitution qui permet au président du pays d'envoyer des forces militaires à l'extérieur du pays si nécessaire. L'ancien président ivoirien est de retour après 10 ans d'absence. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est entré au pays jeudi au terme de 10 années d'absence selon des sources locales. Son avion en provenance de Bruxelles, la capitale belge, a atterri à l'aéroport d'Abidjan. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 lors de la crise post-électorale qui a duré 5 mois et qui a fait de 3 000 morts, rappelle des observateurs locaux. Il a été ensuite emprisonné dans le quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale CPI de l'Aïe. En mars dernier, après un long procès, Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté par la CPI. Après l'acquittement de crimes contre l'humanité de Laurent Gbagbo par la CPI, le président ivoirien Alassane Ouattara a donné son feu vert pour le retour de son ex-rival. «
Le dialogue politique national s'est ouvert jeudi à Ouagadougou, la capitale burkinabé, entre majorité et opposition. Il doit permettre à la classe politique d'échanger sur la situation nationale et les élections locales prévues en 2022. La situation sécuritaire, la révision à minima du code électoral pour la prise en compte des réformes nécessaires, les votes dans des zones à fort déficit sécuritaire et ceux des personnes déplacés seront aussi sur la table, a indiqué à cette occasion le président de Burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. Le chef de l'État a rappelé que cette session s'ouvrait alors que le pays a été secoué début juin par l'odieux massacre humain perpétré par des terroristes au Sahel burkinabé, faisant officiellement plus de 130 morts, à qui il a rendu hommage. Ce contexte appelle notre engagement total dans cette phase initiale de la vie de la nation, empreinte de défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme, la réconciliation nationale et la réponse aux fortes attentes sociales de nos populations, a-t-il à ajouter. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, ont lancé mercredi les travaux de construction de la route Beni, Kassindi-Beni, Butembo-Bounagar, Rutshuru-Goma dans l'est du pays. La cérémonie du lancement s'est effectuée dans la ville de frontalière de Kassindi, en RDC et Mbodwe du côté de l'Ouganda, où les deux chefs d'État ont procédé à l'inauguration de la stèle symbolisant le lancement des travaux. Prenant la parole devant les habitants de Kassindi, Tshisekedi a fait savoir que ce projet est l'œuvre de son homologue de Yoweri Museveni et une vision à laquelle il souscrit totalement. Ce noble projet de construction de la route et qui va de Kassindi jusqu'à Beni Butembo est l'œuvre du président Museveni, ici présent. Depuis qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision, a-t-il souligné. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés, 19 autres interpellés au cours d'une opération menée depuis le 8 juin par l'armée nigérienne et des forces partenaires dans le nord de la région de Tillaberi, située dans l'ouest du pays frontalier du Mali, a annoncé mercredi soir le ministère nigérien de la Défense. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, cette opération ayant mobilisé plus d'un millier de forces nigériennes et d'autres partenaires a permis également de détruire 14 motos ainsi que de saisir 25 armes de divers calibres, plus de 2000 munitions de différents calibres et plusieurs matériels de communication. Le ministère fait état également d'un militaire tués et de 4 autres blessés lors de cette opération. Cette partie du pays frontalier du Mali est devenue ces dernières années le théâtre d'attaques meurtrières menées par des groupes terroristes de part et d'autre de la frontière, faisant des centaines de victimes civiles et militaires et des milliers de déplacés. Les ministres africains du tourisme s'engagent à travailler ensemble pour revitaliser ce secteur. Les ministres africains présents à un sommet de l'Organisation mondiale du tourisme consacré à leur continent se sont engagés à travailler ensemble pour trouver une solution visant à revitaliser l'industrie touristique africaine durement frappée par la pandémie de nouveau coronavirus. Les pays africains membres de l'OMT œuvreront de concert à établir un nouveau récit pour le tourisme à travers le continent, ont-ils indiqué dans un communiqué, ajoutant que cet engagement visait à mieux exploiter le potentiel du tourisme afin de stipuler la reprise. L'OMT, ses membres travailleront également avec l'Union africaine et le secteur privé pour promouvoir le continent aux clients mondiaux grâce à une narration positive et centrée sur les gens et à une image de marque efficace, a indiqué pour sa part l'OMT dans un autre communiqué. Le tourisme étant reconnu comme un pilier essentiel du développement durable et inclusif du continent africain, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, a salué les délégués de haut niveau venus à la première conférence régionale sur le renforcement de la marque Afrique qui s'est tenue en Namibie. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. We'll be right back.